France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Mais qui sont-ils, ces pianistes qui jouent sur les instruments des gares, des aéroports? Le personnage principal du nouveau roman de Jean-Baptiste Andréa, Des Diables et des Saints, paru chez l'Iconoclaste, est l'un d'eux. Bonjour Jean-Baptiste Andréa.
Bonjour Jean-Baptiste Urbain.
Lui s'appelle Joseph, pas Jean-Baptiste, Jo, un vieil homme qui ne joue que du Beethoven, comme un dieu. Les voyageurs s'arrêtent, certains lui conseillent de faire carrière. Non, ce n'est pas trop tard, mais lui, il attend, il a un secret, et c'est son histoire que vous nous racontez dans ce livre, ce roman, où on a envie de tourner les pages jusqu'à la fin. Jean-Baptiste Andréa, le point de départ, c'est quand même bien ces pianos dans les lieux publics?
Oui, en fait, le point de départ est le fait que j'avais envie depuis très longtemps d'écrire sur la musique, qui est une des grandes passions de ma vie. Et après, il y a eu deux entrées dans ce roman, qui est un, l'enfance un peu meurtrie, voilà, puisque je parle d'enfant dans un orphelinat. Mais cette idée n'a vraiment germé qu'au moment, en fait, à un moment dans une gare, un petit matin en plein milieu de la France, quand je me suis retrouvé face à un jeune homme, d'ailleurs, pas un vieil homme, mais qui jouait sur un piano public, et tout d'un coup, tout s'est mis en place dans ma tête sur comment écrire ce roman, l'histoire que je voulais raconter, le thème de l'enfance qui est toujours présent dans mes romans, mais surtout comment le rattacher au thème de la musique. Et puis voilà, ce sont des personnages que je trouve très romanesques. Chaque fois que je vois quelqu'un qui joue sur un piano public, comment il est arrivé là? Pourquoi il joue comme il joue? Pourquoi il joue en public? Qu'est-ce qu'il essaie de raconter? Je trouve ça fabuleusement romanesque.
Vous avez observé dans ces gares, dans ces aéroports, et notamment les liens, les conversations, les interactions avec les voyageurs qui s'arrêtent ou pas, qui parlent ou pas?
Oui, alors c'est assez. Alors je les ai pas observés de manière anthropologique, hein. Je suis comme tout le monde. Je m'arrête, je regarde, et en regardant, en fait, on voit qu'il se passe toujours plein de choses. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent parler, il y a des gens qui sont silencieux, qui restent dans leur coin, qui écoutent, qu'on voit qu'ils sont émus, qui sont touchés. Il y a des gens qui frémissent d'impatience parce qu'on voit qu'ils veulent leur tour. Il y a une sorte de microcosme qui se crée autour de ces pianos, qui montre d'ailleurs que c'était une idée de génie de les mettre dans ces lieux publics.
Vous évoquez d'ailleurs dans Des Diables et des Saints, à un moment donné, la naissance de ces pianos qui sortent de l'espace public en Angleterre.
Absolument, c'est l'histoire est toute simple en fait. C'est une personne qui déménageait. Enfin, je pense c'est apocryphe, mais je pense que pour autant c'est probablement la réalité. Une personne qui déménageait, qui n'a pas pu faire rentrer son piano dans son escalier, c'était en 2003, qui l'a mis dans la rue. Et qui a mis une bâche en disant sur le piano et un mot disant je peux pas monter le piano donc profitez-en en passant jouez-en. Donc c'est de là que date le premier piano public identifié officiellement.
Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, notre invité jusqu'à 9h, c'est aux éditions L'Iconoclaste. Je le disais, votre personnage Joseph Jo ne joue que Beethoven, on va en parler. Et juste avant la première page qu'on va lire tout à l'heure dans quelques minutes, il y a trois mesures, les voici jouées, et les suivantes par une pianiste qui elle-même joue régulièrement dans les gares, c'est Anne Kefelek.
Thank you.
vous me connaissez. Un petit effort, souvenez-vous. Le vieux qui joue sur ses pianos publics dans tous les lieux de passage. Le jeudi, je fais Orly, les vendredis, Roissy. Le reste de la semaine, les gares, d'autres aéroports, n'importe où tant qu'il y a des pianos. On me trouve souvent gare de Lyon, j'habite tout près. Vous m'avez entendu plus d'une fois. Un jour enfin, vous m'approchez. Si vous êtes un homme, vous ne dites rien. Vous faites semblant de nouer votre lacet pour m'écouter un peu sans en avoir l'air. Si vous êtes une femme, je sursaute. C'est que j'en attends une, justement. Ce n'est pas vous. Ne vous vexez pas. Je l'attends depuis 50 ans.
Jean-Baptiste Andréa, vous nous avez lu la première page de votre roman « Des diables et des saints » chez l'Iconoclaste. Donc on pose ça et puis on va remonter le temps. On va avoir cet homme de 69 ans, Jo, qui raconte sa vie, qui raconte pourquoi il joue Beethoven. Et on aura la réponse à la dernière page. Pourquoi d'abord Beethoven? Pourquoi avoir choisi un monomaniaque de Beethoven qui n'est pas allé au départ lui, mais son professeur, son maître?
Peut-être parce que je suis un monomaniaque de Beethoven. C'est-à-dire que d'abord c'est le compositeur qui m'a amené à la musique classique en fait. Donc il y a cet attachement. Et puis en plus je parle de quelque chose d'extrêmement mystique, de cette quête mystique de ce qu'il appelle le rythme. Et pour moi Beethoven, il y en a d'autres bien sûr, mais Beethoven est vraiment l'incarnation de ce compositeur qui était dans une quête quasi mystique, en avait conscience, le verbalisait en permanence. Donc voilà, il y avait quasiment cette fusion entre le vieux Rothenberg qui est le professeur de musique qui est à la recherche de ce mystérieux rythme et le personnage de Beethoven et sa quête personnelle de musicien. Donc il y a ce mélange des deux, ce que représente Beethoven pour moi et la personne qu'il était dans sa vie, de ce qu'on sait de lui.
Dans tout votre roman, il y a des allers-retours entre le récit de ces années de souffrance dans un pensionnat des Pyrénées, un orphelinat, et puis les leçons avec ce professeur redouté mais admiré. Et il y a notamment un chapitre consacré à ce premier mouvement de la sonate au clair de lune, où évidemment il la joue de façon totalement romantique et où son professeur Rothenberg lui dit que c'est n'importe quoi et qu'en fait c'est une marche funèbre.
Voilà, que ça doit être joué comme une déploration puisque ça correspond aux premières années de surdité de Beethoven. Et en fait l'histoire est... Et c'est ce récit qui pour moi tend vers la lumière, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'orphelinat, ça peut être assez inquiétant et sinistre, c'est pas un livre que j'ai voulu lugubre, même si pour autant je ne veux pas fuir la noirceur, elle est là, mais c'est un livre qui va vers la lumière. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. Ça m'arrive souvent.
Mais que vous évoquiez donc cette marche funèbre la sonate au clair de lune, le premier mouvement, et que donc vous avez mis d'ailleurs les premières mesures en exergue.
Oui, alors voilà.
Qui est assez rare dans un livre.
Oui, alors je me suis dit, c'est un livre qui parle beaucoup de musique, c'est une façon originale d'ouvrir le livre, un code, et puis il y a des gens qui vont lire ces notes et les entendre. Je trouvais que c'était une façon d'entrer dans le livre assez étonnante. Ça me plaisait beaucoup de ne pas commencer par des mots.
Et puis il y a cette enfance et cette camaraderie, cette amitié même entre ces orphelins. Ils ont des surnoms, il y en a un qui s'appelle Sinatra, il y en a un qui est obsédé par Mary Poppins. C'est très touchant d'ailleurs de savoir pourquoi on peut voir ça dans le film. Mais c'est aussi, d'ailleurs vous avez plusieurs vies Jean-Baptiste Andréa et vous avez été cinéaste, enfin vous l'êtes toujours, je ne sais pas si vous continuerez à faire des films si vous en avez l'envie, mais ça évoque aussi, c'est très cinématographique, ça peut évoquer Les Disparus de Saint-Agile par exemple. Enfin, il y a cette dimension-là également.
Oui, alors on parlait tout à l'heure de Jeux interdits. C'est vrai que moi c'est plus l'émotion de l'enfance de Jeux interdits mêlée à l'esprit d'aventure de Saint-Agile, on va dire, si je dois faire des références cinématographiques. Le cinéma, c'est un peu quelque chose que j'ai laissé derrière moi au profit de l'écriture, parce que je me sens beaucoup plus libre en écriture. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une dimension, je pense, assez cinématographique, bien involontaire, qui vient de ma formation et de mes années de cinéma avant ça.
On pourrait l'adapter au cinéma, ce livre. Vous acceptez l'adaptation de vos romans?
Oui, mais pas par moi. Non, mais j'en suis ravi. Mais moi, la forme que je voulais donner à cette histoire est vraiment la forme du roman.
La musique, on va en parler avec vous, la place de la musique dans votre vie et dans ce roman, et cette musique qui est vue quand même comme un péché. Il y a cette figure d'un abbé absolument atroce qui interdit à Joseph de jouer de la musique alors qu'il y a un piano dans l'orphelinat.
Oui, en fait, c'est un abbé, en fait, qui opère selon sa propre logique, que j'ai quand même voulu
défendre.
Défendre l'abbé. disons qu'il a ses failles. Voilà, j'ai essayé de pas en faire un méchant de James Bond. Ça, c'était très important pour moi.
Il y en a un méchant de James Bond dans
l'histoire.
Ouais,
mais même lui, il a ses failles. Ouais. Voilà. Donc, c'était important pour moi que chaque personnage, comme nous tous, ait une complexité et que même les pires protagonistes de ce roman aient quand même non pas des excuses, mais un passé qui explique ce qu'ils sont.
Chantant nos cantiques, nous étions petits bons hommes, bercés par la musique d'un bon vieil harmonium qui n'était pas électrique, aussi pour le faire fonctionner un ecclésiastique, un abbé pédalait. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. Au mois de Marie, au joli mois de mai, la Vierge, notre amie, le soir nous endormait. Et nous rêvions, c'est étrange, que notre abbé reçu à Rome par le pape et les anges leur jouait de l'harmonium. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. Va trop vite, parfois même elle s'emballe. Soudain, l'abbé nous quitte, trouvé mort au pédale. Et nous pensions en silence que ce jour-là s'était enfui un peu de notre enfance, emporté avec lui. Mon Dieu, comme il pédalait, qu'il pédalait bien l'abbé. Souvent, c'est bizarre, il m'arrive de rencontrer dans les trains ou les gares des enfants escortés par un ecclésiastique. Alors oui, c'est plus fort que moi, j'entends un vieux cantique de tristesse et de joie.
Une chanson de Charles Trenet, assez peu connue, avec des souvenirs plutôt heureux, mais tout en sous-entendu, d'un abbé qui pédalait. Nous sommes avec Jean-Baptiste Andréa, des Diables et des Saints. Le livre paraît chez l'Iconoclaste. Vous connaissiez cette chanson?
Je la connaissais pas. Elle est formidable et très, très irrespectueuse.
Il y a un certain irrespect aussi des bien camarades, malgré la souffrance et la discipline qui règne dans cet orphelinat des confins qui est à la limite entre la France et l'Espagne dans les Pyrénées. Malgré tout, c'est des gamins qui, de leur âge, qui font les 400 coups et qui essaient de s'évader aussi.
Bien sûr, bien sûr. Il y avait un côté aventure au roman qui me plaisait beaucoup, qui était important. Et puis, il faut quand même dire que c'est pas du tout. Je voulais rien caricaturer là-dedans. Je voulais pas faire une caricature de la religion ou de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un thème qui du roman qui est assez fort et que je voulais effectivement parler des dérives possibles des gens qui sont absolument certains d'avoir raison. Et surtout quand cette raison leur vient de par-delà les nuages.
La place de la musique dans votre vie, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes musicien, mélomane d'une famille de musiciens?
Non, alors c'est même plutôt le contraire. Enfin, mes parents m'ont éduqué très tôt à la musique classique, ce qui m'ennuyait prodigieusement quand j'avais 12 ans, mais ça a porté ses fruits plus tard. Musicien encore moins, je peux encore vous jouer Jeux Interdits, puisqu'on l'a eu juste avant. Mais j'ai entendu que c'est un morceau simple à jouer, donc tout d'un coup j'ai été désespéré, parce que pour moi ça me paraissait déjà très compliqué. Et voilà, ma pratique musicale s'arrête là. Enfin, mon amour de la musique, non, je suis mélomane, je peux pas vivre sans musique classique et ça fait 30 ans que je suis tombé dans ce bain par le biais de Beethoven, par le biais de la 5e symphonie, puisque j'avais lu un jour une comparaison façon tribune des critiques de disques, mais dans un magazine qui s'appelait Répertoire à l'époque, sur la 5e de Beethoven, des interprétations, et tout d'un coup ça m'avait montrer d'abord que on pouvait parler de la musique d'une façon tellement passionnée qu'il devait y avoir quelque chose qu'il fallait absolument que j'explore, et puis la notion d'interprétation. Ah bon, une cinquième n'est pas une cinquième, c'est pas toujours la même, c'est pas toujours le même disque. Et donc j'ai acheté par Fürth Wengler, mon premier disque de musique classique acheté par moi-même, et je suis tombé dedans. Voilà.
Et après, vous êtes dit, j'ai envie d'écrire autour de la musique, de trouver ma musique des mots pour parler de musique.
Je ne me suis pas dit à l'époque, je voulais déjà écrire, mais je pensais que je voulais écrire dans le cinéma avant de m'apercevoir 20 ans plus tard qu'en fait, je voulais écrire vraiment en littérature. Ça n'est que depuis l'apparition de mon premier roman que je me dis comment extérioriser cette chose si intérieure qu'est la musique pour moi, comment la mettre entre des pages et surtout comment le faire, j'espère bien, en tout cas d'une manière que j'estime juste et digne de ce que je ressens, et voilà, ça s'est passé à travers ce roman.
Mais dans votre roman, Jean-Baptiste Andréa, d'une certaine façon, c'est la musique qui sauve le personnage.
Bah, c'est la musique qui nous sauve, non? Enfin, je veux dire, c'est l'art en général.
Dire le contraire ici,
Non, mais c'est très évident pour moi. C'est ce qui nous sort. Enfin, c'est la différence. On dit la différence. Je crois que c'est Mark Twain qui disait ça, entre l'animal et l'homme, c'est qu'il sourit. Mais moi, ma chienne que j'adore, ma chère Lorca, je te dis bonjour si tu m'écoutes. Elle sourit aussi. Je pense que la différence.
Elle sourit en écoutant de la musique.
Parfois, elle écoute de la musique tous les soirs avec moi. Et la différence entre l'homme et l'animal pour moi est justement ce. La musique est une des différences. Ma chère Lorca ne fait pas de musique pour le coup. Ça c'est la vraie différence. L'art, cette capacité à externaliser, à extérioriser quelque chose qui est en nous, à toucher ce que certains appelleront le divin. C'est quelque chose qui est très important. C'est ça qui sauve le monde, franchement.
La musique et puis les maîtres, on y revient. L'influence d'un maître et comment il guide un musicien pour se former et être interprète. Et il y a quand même un moment dans le livre où il y a la révélation par, je ne sais pas si on peut le dire, par l'amour.
Oui. Alors d'abord, la notion de maître, c'est quelque chose qui m'est cher. Je pense que dans nos vies, et particulièrement dans les milieux artistiques, c'est extrêmement important d'avoir eu, de rencontrer un mentor ou un passeur et quelqu'un qui nous autorise à faire ce qu'on veut faire, vraiment, et qui nous amène à l'étape supérieure. Et voilà, l'essentiel de ça, du rôle de ce maître, et l'amour, évidemment, ça c'est pareil, comme dans la vie, l'amour. Je voulais pas écrire une histoire sans amour.
Je touche le clavier, l'arpège furieux, les accords, presto agitato. Le troisième mouvement, pas celui que vous m'avez demandé. Je n'aime pas ce qui est prévisible. Vos lèvres se rétractent, vos pupilles changent de taille. Un drogué qui respire de nouveau après une injection d'adrénaline. À la fin, vous restez silencieux, longtemps. Vous avez pris une tornade en pleine figure et mille autres avant vous. Elle vous a soulevé, essoré, reposé au même endroit. Vous n'en revenez pas d'être vivant. Vous ne direz plus jamais banal. Je sais ce que vous ressentez. On n'entend pas un génie devenir sourd sans une certaine émotion. Thank you. Beethoven par Wilhelm Kempff et ce deuxième mouvement, la fin de la sonate numéro 24, la sonate à Thérèse, qui est l'une des sonates présentes dans le livre de Jean-Baptiste Andréa, notre invité ce matin, des diables et des saints à l'iconoclaste roman. Il y a plusieurs sonates à Thérèse, il y a des adieux aussi, on parlait tout à l'heure de la claire de lune, vous avez un peu dispersé les 32 sonates dans le roman.
Oui, c'est une œuvre juste incroyable. Et pour l'anecdote, c'est assez amusant parce que Beethoven estimait que cette sonate à Thérèse était bien supérieure à l'opus 27 numéro 2, le clair de lune, et il en avait assez que tout le monde lui parle de la sonate au clair de lune et ne comprenne pas que celle-ci qui est postérieure était infiniment supérieure.
La Meurclavière également, pour ceux qui vous auront déjà lu, il y a ce livre qui a eu un immense succès, Ma Reine, il y a eu 100 millions d'années un jour, c'est votre troisième roman après vos films. Il y a des choses qui reviennent. Moi, c'est le premier de vos trois romans que je lis. Je vais me rattraper. Mais l'enfance
est un thème assez présent pour moi, tout bêtement, comme point de départ de tout. Hein, c'est le moment où nous héritons en fait de ce combat entre le bien et le mal qui définit les vies de chacun et donc qui définit celles de nos parents, qui définit celles de nos générations, des générations qui nous ont précédés. On nous passe ce combat finalement pour notre entrée dans la vie en nous donnant les armes pour choisir. Mais à certains enfants, on ne donne pas les armes pour choisir. On ne donne pas les armes pour se battre, pour savoir quel chemin emprunter dans la vie. Et ça, je trouve ça bouleversant, je trouve ça extrêmement touchant, je trouve ça extrêmement injuste. Et je parle beaucoup de ça, de ces enfants qu'on prive d'armes. Enfin, je dis armes, c'est un mot belliqueux, mais d'outils essentiels pour démarrer dans la vie.
D'amour.
D'amour, bien sûr. Oui, ça pourrait se résumer à ça, d'ailleurs.
Et de musique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Andréa. Il y a une dernière chose, c'est l'étincelle qui fait les grands musiciens, parce que vous citez Kempff d'ailleurs, qu'on vient d'écouter, vous en citez d'autres, Barenboim, il y a cet extrait que j'ai lu il y a quelques minutes, mais il y a ce moment-là qui est un déclencheur, une bascule dans le roman.
Oui, bien sûr, qui est indéfinissable dans la mesure. Bon, il m'a fallu 370 pages pour le définir, mais c'est cette étincelle, ce truc indéfinissable qui fait que ça vaut le coup de fonder une belle radio comme France Musique dessus et une industrie à un monde entier. C'est indéfinissable, mais cette étincelle existe bel et bien.
Des diables et des saints, et vous saurez à la dernière page pourquoi cet homme de 69 ans joue tous les jours dans les gares et dans les aéroports uniquement du Beethoven. Il refuse de jouer autre chose. Merci Jean-Baptiste Andréa, vous saurez aussi pourquoi il y a un petit garçon qui veut savoir la fin de Mary Poppins.
Merci de m'avoir reçu.
À réécouter sur francemusique.fr.